Bruno Gilles, vous réunissez vos groupes thématiques aujourd'hui. Dans quel état d'esprit vous êtes depuis septembre? Vous êtes engagé dans cette campagne. Brigitte Macron est venue à Marseille, mais elle ne vous a pas invité. Est-ce que vous faites vraiment de la politique comme gaulliste social? Est-ce que vous êtes un candidat libre? Comment vous vous situez?
Écoutez-moi, d'abord, depuis le mois de septembre, depuis ma déclaration de candidature septembre de l'année dernière, depuis 8 mois, moi, je trace ma route et j'ai toujours dit que dans une ville comme Marseille, quand on est candidat pour devenir le maire de la deuxième ville de France, bien, il faut savoir sortir des partis politiques, sortir des alliances d'arrière-boutique et il faut savoir rassembler un maximum de Marseillaises et de Marseillais. C'est ce que je fais depuis le début. J'avais dès le début dit que j'allais faire un projet participatif. C'est ce que je vous ai présenté, je dirais pas à la mi-temps, mais presque. C'était ce matin de pouvoir, avec des experts, avec des responsables de groupes de travail dans différents domaines, que ce soit la culture, que ce soit le logement, le sport, la sécurité et bien d'autres choses, vous présenter ce projet. Quel que soit l'écume à côté de ma candidature. Moi, je n'étais pas invité, je n'ai pas été invité par Brigitte Macron. Certains ont voulu faire un peu des arrangements d'arrière-boutique. Moi, ça ne me va pas du tout. Voilà, moi, je suis issu d'une droite républicaine, d'une droite gaulliste, je l'ai dit. Une de mes références est Philippe Séguin. Mais il faut savoir ouvrir. Marseille n'est pas une ville de droite, Marseille n'est pas une ville de gauche. Elle mérite beaucoup mieux. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis 8 mois. Et pour l'instant, écoutez, moi, ça a l'air de plutôt bien se passer.
On sait que vous êtes à l'origine d'une loi sur, contre l'habitat indigne, je dirais. Elle vient de passer au Sénat, elle va passer à l'Assemblée nationale. Elle n'est pas encore tout à fait prête, c'est Valérie Boyer qui doit la porter. D'abord, simplement, est-ce que vous pensez qu'elle va passer parce que, semble-t-il, elle va à l'encontre de la loi Elan? Est-ce qu'elle est soutenue par La République En Marche?
Déjà au Sénat, elle a été votée par tous les groupes politiques, y compris La République En Marche, y compris le groupe socialiste, y compris les groupes divers gauche et y compris le groupe communiste qui est quand même très puissant au Sénat. Cette proposition de loi a été vraiment négociée avec la majorité sénatoriale mais aussi avec l'opposition dans le cadre de son passage au niveau de la commission des affaires économiques. Elle a été négociée aussi avec le ministre du Logement de Normandie et son cabinet. Nous avons discuté de certains articles. Au départ, il y avait 9 articles. On a atténué certains, on en a mis d'autres. Donc, c'est une loi, honnêtement, qui est très transcourante. Et c'est ce qui me fait penser qu'elle peut être votée à l'Assemblée nationale conforme, ce qu'on appelle conforme, ce qui évite les retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est l'engagement qu'a pris le ministre en discussion générale. Il a bien dit que cette loi, il avait un avis favorable dessus, un avis de sagesse, parce que souvent sur les propositions de loi, les ministres donnent ce qu'on appelle un avis de sagesse. L'avis de sagesse est plutôt une abstention positive et qu'il se débrouillerait pour qu'elle soit portée à l'Assemblée nationale. En tout cas, je le souhaite pour la lutte contre l'habitat indigne et insalubre.
Hier, la charte du relogement a été votée en conseil municipal. Le grand public ne voit pas trop de mesures pragmatiques. Vous vous présentez comme un candidat du pragmatisme. Vous insistez là-dessus. Alors, quelques mesures qui illustrent votre loi ?
Dans la lutte contre le logement insalubre, il y a quelques mesures, je dirais, phares. Un, c'est de donner un pouvoir de police au maire, un pouvoir de police du logement, pour qu'en fait il soit le principal intervenant lorsqu'il y a une déclaration de logement, que ça soit un logement insalubre, un logement en péril, un logement indigne, un logement inhabitable. Le grand public ne va pas faire la différence, mais c'est souvent des services différents, des collectivités différentes qui peuvent intervenir. Là, le pouvoir de police du maire sera enfin entre ses mains et pourra vraiment intervenir. Autre mesure, c'est la lutte contre les marchands de sommeil et surtout aggraver les sanctions, en particulier les sanctions financières contre les marchands de sommeil. Troisième chose, on peut parler de la réduction du délai. Aujourd'hui, légalement, entre le moment où le maire ou le président d'une communauté d'agglo reçoit un signalement, ça peut prendre jusqu'à 1 an en respectant la loi pour arriver à faire quelque chose. On a beaucoup réduit ces délais. Autre chose qui nous paraît important, c'est la possibilité pour le maire de participer à des expropriations. Alors, ce n'est pas spolier des propriétaires, loin de là. C'est de dire, lorsqu'il y a un logement insalubre, que le propriétaire reconnaît lui-même qu'il ne peut pas ou qu'il ne veut pas, pour X raison, faire les travaux. Dans ces cas-là, l'État peut exproprier et la commune peut acquérir ce bien et bien évidemment faire les travaux après. Quatrième chose qui était importante, c'était un signal fait au niveau des associations qui se battent contre le logement insalubre et qui défendent les locataires qui parfois sont énormément taxés par certains propriétaires véreux, bien évidemment, ce n'est pas le cas de tous les jours. C'est permettre aux associations de pouvoir rester en justice au nom de ces locataires. C'était quelque chose qui était demandé pendant des dizaines d'années par l'abbé Pierre, par Droit au logement, par toutes ces associations. Ben, c'est inscrit dans la loi, le ministre l'a accepté et ça a été voté aussi au Sénat.
On a dit ce matin aussi que les pieds d'immeubles pourraient offrir des logements aux personnes en situation de handicap qui se sont émues du fait que la loi réduise l'obligation des constructeurs pour leur logement adapté.
Oui, dans le bâti ancien ou moyennement ancien, on s'aperçoit qu'il y a souvent dans les rues des commerces qui sont fermés depuis des années. Et les collectivités, souvent, sont à la recherche d'un repreneur, d'un commerçant, d'une activité professionnelle qui va revenir. Et ça dure, ça dure, ça dure, et puis on ne va rien venir. À un moment, il faut être honnête et accepter la réalité. Donc l'idée, alors là, c'est dans le projet municipal que je défends, ce n'est pas dans ma proposition de loi, c'est de dire, à un moment, soyons là aussi pragmatiques. Au lieu d'attendre éternellement un commerçant, eh bien la ville peut parfaitement racheter ce commerce et en faire un logement. Alors ça peut être effectivement un logement pour un handicapé, ça peut être des logements pour des jeunes étudiants, ça peut être des logements pour des gens qui sont en difficulté, ça peut être aussi des logements, on n'en a pas reparlé aujourd'hui, mais je suis très attentif à ce qu'on m'a rappelé, c'est-à-dire les anciennes pensions de famille, ce qu'on a connu quand on était un petit peu plus jeune. Ces pensions de famille, il y a un lien social, il y a un lien relationnel entre les personnes âgées et les personnes plus jeunes, entre par exemple les étudiants et les gens qui sont en difficulté financière. Je pense que là aussi, quand il y a des grands rez-de-chaussée, on peut aller dans cette idée aussi de pension de famille pour faire partager un contact entre des étudiants, par exemple, et des personnes âgées. C'est une bonne proposition qui a été retenue par le groupe de travail qui travaille sur le logement et je pense qu'il faudra aller un petit peu plus loin.
Alors enfin, dernière question, cette mixité sociale, justement, elle me semble possible uniquement au centre-ville. Pour les quartiers nord, est-ce que vous avez un désir justement de les rapprocher avec de meilleurs transports en commun, de les développer avec plus d'emplois?
Le logement social, il n'est pas spécialement concentré dans le centre-ville et dans le secteur nord de Marseille. En 20 ans, on a fait beaucoup d'efforts sur le logement social. Moi, je prends le cas des 4e et 5e arrondissements. On a fait des centaines et des centaines de logements sociaux, mais dans le cadre de mixité sociale. Moi, je suis par exemple très favorable lorsqu'on fait de l'accessoire à la propriété, du locatif libre et du logement social. C'est-à-dire qu'il ne faut plus parquer le logement social. Lorsque vous faites sans logement, l'erreur, ça serait de dire « je fais sans logements sociaux ». C'est de l'hérésie. Par contre, lorsque vous faites des programmes immobiliers de sans logement, eh bien vous faites par exemple 30% d'accessoire à la propriété, 30% de locatif libre et 40% de logement social. Et moi, je vais beaucoup m'inspirer de ce qui se fait à Nice. J'ai beaucoup travaillé avec Dominique Estrosi, qui était d'ailleurs la rapporteur de ma proposition de loi, puisqu'elle fait partie de la commission des affaires éco du Sénat. Dominique Estrosi, qui est vraiment une grande responsable du logement, il y a une grande spécialiste du logement en France et surtout à Nice, puisqu'elle a cette délégation, elle a une très bonne idée. Elle a en fait, si vous voulez, saupoudré du logement social dans des opérations immobilières. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est que dès qu'on a des opérations immobilières importantes de plus de 50 logements, il faut par exemple qu'une dizaine de pourcents de logements, 5-6 logements, pas plus pour une bonne intégration, 5-6 logements soient réservés à du logement social. Je pense que dans ces cas-là, il y a une meilleure intégration, il y a une meilleure acceptation de la part de la population. Les grandes barres qui nous causent aujourd'hui des difficultés ingérables dans le secteur nord de Marseille, il faut bien évidemment s'en séparer. Et le problème des quartiers nord, il est très très difficile, vous l'avez dit vous-même, c'est le problème des copropriétés dégradées, c'est le problème des transports en commun, c'est le problème des équipements publics, il y a énormément de sujets, on est en train là aussi d'y travailler. C'est très lié aussi à la métropole et à des compétences qui sont plutôt de la métropole et que de la mairie. J'espère qu'on pourra y travailler ensemble avec la présidente actuelle de la métropole.